Vous cherchez un espace pour échanger avec d'autres parents d'ados et avoir des solutions à des problématiques spécifiques? Nous avons quelque chose de spécial pour vous. Écoparento, un groupe de parole en visio qui aura lieu tous les troisièmes jeudis du mois. J'animerai ce groupe en compagnie de Florence Bramy, psychologue experte de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado. Un format en deux parties. 30 minutes de conférence sur une thématique prédéfinie et 45 minutes d'échange avec la psychologue et les autres parents. Notre premier rendez-vous aura lieu le 23 mai à 20h sur le thème des relations parents-ados. Nous allons voir dans ce groupe de parole comment exprimer vos irritations à vos ados sans les blesser, comment réagir de façon constructive aux différentes préoccupations de vos ados, comment encourager vos ados à assumer leurs responsabilités, ou encore comment fixer des règles et les exprimer et comment intervenir sans punir. Un beau programme pour apprendre de façon concrète comment mieux se faire comprendre de vos ados en leur exprimant et en leur faisant comprendre vos préoccupations de parents. Et surtout, comment les écouter et rester sur la même longueur d'onde. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site parentalitéadolescence.com puis sur l'onglet « Groupe de parole ». Nous avons hâte de vous accueillir. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou à nous suivre sur la newsletter sur parentalitéadolescence.com. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial car le podcast participe au Podcaston. Pendant 7 jours, des centaines de podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. J'avais à cœur de vous parler de cette association qui montre que l'on peut agir à son niveau tout près de chez soi. J'ai donc le plaisir d'interviewer Paul Deric de l'association France Parrainage. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Paul.
Bonjour Sarah.
Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de l'association France Parrainage dans laquelle vous travaillez, mais d'abord, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Alors, je suis Paul Deric, je suis responsable de secteur Île-de-France Grand Ouest chez France Parrainage, concrètement une délimitation géographique qui veut dire que je suis le responsable direct de 6 antennes, donc des antennes départementales, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne pour l'Île-de-France.
Okay.
Et aujourd'hui également de l'antenne Ille-et-Vilaine, l'antenne de Gironde et de notre toute dernière antenne qui est dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand.
D'accord, super. Donc comme quoi il y a toujours de l'évolution en tout cas dans l'association pour donner l'accès à tout le monde. Alors justement, pouvez-vous nous présenter France Parrainage maintenant s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors France Parrainage, en quelques mots, c'est une association d'aide à l'enfance, une association loi 1901. Qui a déjà pas mal d'années derrière elle, puisqu'elle a été créée en 1947,
d'accord.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Okay.
À la base, c'était une association qui s'appelait le Centre français de protection de l'enfance et qui a été créée initialement pour répondre aux besoins des orphelins de guerre français. Donc en fait, c'était des orphelins qui étaient appuyés financièrement par des familles, notamment néo-zélandaises, canadiennes, suédoises. Et donc petit à petit, c'est une structure qui a évolué, le Centre français de protection de l'enfance, pour proposer, à partir des années 60 notamment, du parrainage à l'international, on pourra y revenir, et en France, le volet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le parrainage de proximité.
D'accord.
Et donc en 2012, le Centre français de protection de l'enfance s'est scindé en différentes structures et nous, on est resté sur la partie parrainage uniquement avec l'association France Parrainage.
Super, c'est génial d'avoir toutes les stars de l'asso.
Je vous en prie.
Du coup, il y a deux options dans l'association, donc il y a le parrainage à l'international et le parrainage de proximité qu'on va creuser un peu plus ensemble aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parrainage à l'international d'abord ?
Oui, bien sûr. Alors le parrainage à l'international, c'est assez connu du grand public, généralement. Ça consiste en fait en un don financier à un enfant ou plusieurs enfants pour les aider à s'épanouir, à subvenir à leurs besoins fondamentaux, tels que l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, à certaines infrastructures, à la santé. La question de l'éducation est particulièrement importante, le retour à l'éducation notamment en tant que vecteur de lutte contre la pauvreté, le travail infantile dans certains pays. Donc en fait, France Parrainage, on a accompagné en 2023 plus de 18 000 enfants avec le parrainage à l'international. Et en fait, on intervient dans 15 pays. On intervient avec des acteurs locaux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de projet à l'international, mais on travaille directement avec des centres, des écoles, des orphelinats dans 15 pays d'intervention. Alors, on est surtout en Afrique continentale. Je peux penser notamment, on est au Sénégal, on est également à Madagascar, en Asie du Sud-Est, on est au Vietnam, Laos. On est également en Amérique latine avec le Pérou et en Europe de l'Est avec la Roumanie. Donc voilà, une quinzaine de pays d'intervention. Et l'idée, en fait, c'est, avec un don financier mensuel, d'aider un enfant, sa famille, pour aider cet enfant et l'accompagner dans son épanouissement. C'est très simple. En gros, ça consiste à verser un don. Donc, vous avez différentes options. Vous pouvez soit parrainer une école. Donc, en fait, vous donnez un soutien à la structure, à l'école, et ça permet aussi d'accompagner différents enfants. On est sur une offre à partir de 19 euros par mois. Donc, une fois que c'est déductible des impôts, vous tombez à un peu plus de 6 euros.
D'accord.
Vous pouvez également parrainer un enfant, donc c'est-à-dire que vous êtes le parrain, la marraine d'un seul enfant. Là, on monte à 29 euros. Et vous pouvez également parrainer l'enfant et toute sa communauté, sa famille. C'est-à-dire que les autres enfants, par exemple, notamment qui sont dans sa famille, seront aussi touchés et aidés par l'aide financière. Et là, on monte à 39 euros avec, comme à chaque fois, une déduction à 66% des impôts.
D'accord.
Concrètement, comment ça se passe? Vous pouvez aller voir sur notre site. Vous allez être mis en lien avec notre équipe du pôle international qui va travailler avec vous le projet de parrainage international que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez parrainer en Inde, qui est un de nos plus grands pays d'intervention, à Madagascar, parce que vous avez une affection particulière pour l'un de ces pays, c'est possible. Et ensuite, au début du projet de parrainage, vous allez avoir accès à un dossier de l'enfant, c'est-à-dire un peu qui il est, quelle est sa famille, ses bulletins scolaires, des photos. Et tout au long de la relation, vous pouvez échanger avec des correspondances. Donc, on va être beaucoup sur de l'échange de lettres, des dessins, des images, des photos, des cadeaux. Parfois, vous pouvez faire aussi un don à certains moments. Pour que vous puissiez voir à distance l'enfant grandir.
Okay.
Vous en faites pas si vous parlez pas hindi ou malgache, par exemple, il n'y a pas de souci. On a des traducteurs bénévoles qui font que vous pouvez envoyer votre lettre, vous en français par exemple, et après elle arrive à l'enfant qui peut vous répondre dans sa langue maternelle ou en français ou en anglais, mais généralement dans sa langue maternelle avec la traduction après d'un bénévole.
Okay.
Et pour certains parrains et marraines, c'est aussi l'occasion parfois d'aller rendre visite à leur filleul, c'est pas obligatoire, mais certains l'ont déjà fait, c'est possible, lors d'un voyage.
Trop bien, c'est génial. C'est bien de savoir aussi comment ça se déroule vraiment concrètement, même si c'est loin, de savoir qu'en fait on crée quand même un lien avec l'enfant, c'est aussi intéressant.
Tout à fait. En complément, en fait, aussi, parce que c'est quelque chose qui souvent pose question pour les personnes, forcément, qui s'engagent financièrement, où va l'argent ? Donc nous, il faut savoir qu'on est agréé et agrémenté, don en confiance. On est labellisé par ce don qui signifie qu'on a une transparence de nos comptes. Voilà, vous savez où va l'argent que vous mettez et dans le parrainage financier. Concrètement, 75% des dons que vous adressez à l'association vont directement pour l'enfant. Le reste, ça va être ce qui permet aussi de suivre son dossier, d'aider l'école, d'aider sur place les personnes qui accompagnent. Donc vous êtes quand même sur 75% qui vont directement à l'enfant.
D'accord.
Et une partie restante pour accompagner justement l'enfant dans le projet.
Ok, super. Alors, passons maintenant au parrainage, moi, qui m'intrigue le plus. Donc, c'est le parrainage de proximité. Comment ça se passe et de quoi on parle ?
Alors, le parrainage proximité, à la différence du parrainage international, on n'est pas sur un don financier, on est sur un don de temps. En fait, le parrainage proximité, en quoi ça consiste ? Concrètement, c'est la création d'un lien qui va être durable et privilégié, ce sont deux constantes très importantes, entre un enfant ou un jeune et un ou plusieurs adultes bénévoles. La forme concrète, c'est en fait partager du temps, des temps de week-end, des temps de vacances scolaires, des temps parfois autres également, entre un adulte qui va être bénévole et un enfant ou un jeune. Donc ça peut être passer du temps ensemble à faire la cuisine, à faire des activités à l'extérieur, on peut faire une balade en vélo, des jeux de société, aller au musée, au cinéma. On peut passer des vacances ensemble, donc il y a des enfants qui partent en parrainage, dans le cadre de leur parrainage, pardon, avec leurs parrains et marraines, au camping, à la mer, dans la famille également, certains qui peuvent même partir à l'étranger. C'est important de dire chez nous qu'on est sur du parrainage socio-affectif. Vraiment, l'idée et l'essence du parrainage de proximité chez France Parrainage, c'est la création d'un lien socio-affectif. Ça peut prendre après aussi d'autres formes dans le cadre de ce projet de parrainage. Il peut y avoir de l'ouverture socioculturelle pour des jeunes qu'ils résident au sein de leur famille ou qu'ils soient placés à l'aide sociale à l'enfance, ça peut aussi être un moyen d'être accompagné vers leur autonomie, vers leur insertion socio-professionnelle. Mais ce qui est important vraiment derrière, c'est la création de ce lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour du soutien scolaire une fois par semaine et ça s'arrête là, ou rechercher un stage et ça s'arrête là. On est sur l'idée que le lien puisse perdurer aussi longtemps que possible avec l'accompagnement de France Parrainage dans un premier temps et au-delà, sans nécessairement notre accompagnement. Et voilà, que ce lien reste indéfectible en fait, que le parrain, la marraine soit une figure d'attachement, un tuteur de résilience pour cet enfant.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de se dire qu'il y a vraiment... Enfin, quand vous utilisez le mot parrain-marraine, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se retrouver parrain-marraine d'un enfant qui est à côté de chez soi. Du coup, j'avais regardé un petit peu sur le site. Donc, c'est vraiment géolocalisé. Donc, ça peut être vraiment la rue à côté de chez nous, un enfant peut-être qu'on n'avait jamais croisé. Et en fait, c'est cet enfant-là qu'on pourrait aider autant de temps qu'on veut. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un rythme qui est imposé ou c'est nous qui fixons, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois, ou comment ça se passe un petit peu?
Tout à fait. Alors sur cette question de géolocalisation, que l'enfant habite dans la rue d'à côté, bon, ça fait, c'est une très belle chose, c'est rare malheureusement, mais en tout cas effectivement, dans parrainage de proximité, il y a proximité. Et l'idée, c'est si demain vous souhaitez devenir parrain ou marraine, ou que vous souhaitez que votre enfant soit parrainé, il faut que, bien entendu, vous soyez déjà dans une antenne où nous on agit. Donc on agit aujourd'hui sur 12 antennes qui sont réparties sur 13 départements en France. Je peux vous faire la liste, elle est aussi trouvable facilement sur notre site. Et l'idée, c'est effectivement qu'il y ait entre 30 et 45 minutes maximum. Nous, c'est ce qu'on essaye. Parfois, ça peut être un peu plus. Idéalement, c'est moins. Sur certains lieux, notamment en région parisienne, c'est vrai que ça monte vite, le transport. Mais l'idée, c'est vraiment que les parrains et marraines résident à côté de l'enfant. Et donc, concrètement, c'est un lien qui s'engage dans la durée, puisque la moyenne de l'accompagnement des parrainages chez France Parrainage, c'est 4-5 ans.
D'accord.
Ça ne peut pas dire que le lien dure 4-5 ans, il peut perdurer au-delà, mais nous, notre accompagnement dure 4-5 ans.
Okay.
Et en fréquence, on est en moyenne sur un week-end sur deux, un week-end sur trois, et la moitié des vacances scolaires. Donc, c'est un engagement qui est quand même chronophage, qui change en fait la vie tant de l'enfant que des parrains et marraines, puisqu'on n'est pas voilà, sur une fois tous les 6 mois. Et bien entendu, c'est progressif. Ça, je pourrais y revenir. Mais on n'accueille pas l'enfant tout un week-end dès la première fois.
Ouais.
Au début, on apprend à se connaître 2-3 heures, une demi-journée, puis une journée. Et si ensuite, ça correspond à tout le monde et avant tout à la demande de l'enfant ou du jeune, il peut y avoir des accueils en hébergement.
D'accord. Qui sont d'ailleurs les enfants qui peuvent être parrainés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sélection qui en fait partie?
Alors, pour les enfants, il n'y a pas forcément à proprement parler une sélection. On va plutôt évaluer en fait, la pertinence du projet en lien avec toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'enfant. Donc l'enfant mineur ou jeune majeur, bah, on va être en lien avec ses parents. Et en fait, après, ça va aussi dépendre des territoires. Nous, il faut savoir, comme je le disais en introduction, on vient de la protection de l'enfance, donc du Centre français de protection de l'enfance. Et sur un peu plus de 780 parrainages qui ont été accompagnés en 2023 sur toutes nos antennes, on a quand même deux tiers pour des enfants qui bénéficient d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance. Sur cela, la plupart vont être confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans des maisons d'enfants, des foyers, des familles d'accueil. Ça veut aussi dire qu'ils vivent encore à leur domicile, au domicile familial, avec ce qu'on appelle une mesure d'accompagnement. Ça peut être une mesure d'accompagnement en milieu ouvert, donc là c'est une décision du juge, ou ça peut être contractuel, donc à la demande des parents, ce qu'on appelle un accompagnement éducatif à domicile. Donc en fait, ça va dépendre, nous, en fonction aussi de notre territoire d'intervention. C'est-à-dire que sur certains départements, comme la Gironde, nous on travaille dans tous nos départements avec le conseil départemental qui cofinance en majorité notre action, et donc qui est notre partenaire principal. Et donc certains conseils départementaux, comme celui de la Gironde, nous permet d'accompagner des enfants qui vivent au sein de leur famille avec ou sans mesure de protection de l'enfance, des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Sur d'autres territoires, on va être uniquement sur des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Donc voilà, ça dépend aussi nous conventionnellement. Concrètement, qui sont ces enfants? Ce sont des enfants entre 2 et 21 ans au moment où on va débuter le projet, et généralement des enfants qui sont dans une certaine situation de vulnérabilité ou d'isolement. Par exemple, ça peut être des enfants qui sont issus d'une famille monoparentale, donc généralement une maman seule, qui n'a pas forcément beaucoup de personnes autour d'elle, et pas de grands-parents, d'oncles et tantes ou d'amis. Et donc, le parrainage va permettre à ces enfants de s'ouvrir, de découvrir d'autres personnes, de sortir de la sphère familiale, au même temps que ça va permettre aussi à la maman, parce qu'on est généralement seule, de souffler un peu. Ouais. Ça peut être des enfants aussi en situation de handicap. Il y en avait quand même près de 12% parmi les enfants accompagnés en 2023 par le parrainage. Il y a également des mineurs non accompagnés. Donc ce sont des mineurs isolés étrangers, donc qui viennent d'un autre pays, qui n'ont pas de figure parentale, d'autorité parentale sur le territoire français.
D'accord.
Donc ça peut être des jeunes d'Afrique subsaharienne, du continent indien, qui sont arrivés en France, et du fait de leur minorité, ils sont pris en charge par la protection de l'enfance. Et donc ce sont des enfants et des jeunes qui sont en demande assez importante de liens, puisqu'ils sont assez isolés généralement sur le territoire français, mais également d'apprendre les codes de la société française, d'apprendre un peu mieux le français, dans leur souhait de s'insérer aussi dans la société. On a donc, comme je disais, des enfants et jeunes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, notamment des enfants qui vivent ce qu'on appelle en collectivité, en maison d'enfants, et le parrainage vient répondre parfois à un besoin d'individualité, de cocooning, de moments privilégiés où il y a un adulte qui vraiment est dédié à eux, qui passe de son temps avec eux. Voilà, un peu. On a des profils vraiment très variés avec des enfants et des besoins surtout différents, mais généralement, comme je le disais en introduction, le point commun va être vraiment ce besoin de créer un lien sur le long terme.
D'accord. Et donc, du coup, on sait qui sont ces enfants, mais si nous, on veut parrainer du coup un enfant, comment vous sélectionnez en fait les familles qui peuvent parrainer un enfant, et est-ce que vous les accompagnez? Parce qu'on a parlé un petit peu d'accompagnement, mais concrètement, vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider?
Tout à fait. C'est pas un projet qu'on prend à la légère chez France Parrainage. Donc effectivement, pour devenir parrain ou marraine de proximité chez France Parrainage, il y a tout un processus d'évaluation, de sélection qui est nécessaire, puisque si on revient à la base et à l'essence de ce projet, on est quand même sur la mise en lien d'un enfant mineur ou un jeune majeur avec un ou plusieurs adultes qu'il ne connaît pas. Donc nous, France Parrainage, il est nécessaire qu'on s'assure, qu'on contrôle aussi bien entendu le fait que l'enfant serait accueilli, accompagné dans des conditions sécures, viables pour son épanouissement, son développement, son bien-être. Donc ce processus va être le même sur toutes nos antennes, peu importe, le projet des parrains et marraines, peu importe leur connaissance du dispositif, de la protection, de la prévention de l'enfance, il n'y a pas de traitement de faveur, c'est la même chose pour tout le monde.
Okay.
Donc, la première étape, ça va être la participation à une réunion d'information collective. Cette réunion va se dérouler à l'antenne ou en visioconférence, ça va dépendre. Sur nos différentes antennes, on peut agir différemment en fonction des réalités géographiques, notamment. Donc, cette première réunion, elle va durer généralement entre une heure et demie, et elle va permettre à l'équipe de France Parrainage de présenter le parrainage de proximité, comment ça fonctionne, quels sont justement les processus pour devenir parrain et marraine, mais également qui sont les enfants parrainés, expliquer un peu ce qu'est la protection, la prévention de l'enfance, préciser que bien entendu le projet se fait toujours avec les parents, avec toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'enfant, et répondre aux éventuelles questions des personnes intéressées. Donc ça, c'est la première étape. À l'issue de cette réunion, nous, on envoie un formulaire aux personnes qui sont intéressées. Et une fois qu'on reçoit le formulaire rempli, c'est un formulaire qui pose quelques questions sur le projet, qui sont ces personnes, comment elles arrivent à ce projet de parrainage, ce qu'elles souhaitent apporter à l'enfant ou aux jeunes. Et on demande également quelques pièces justificatives, un casier judiciaire B3, vierge bien entendu, des attestations d'assurance et carte d'identité. Une fois qu'on reçoit donc tout ce dossier, nous, on va contacter la personne pour convenir d'un premier entretien. Ce premier entretien, c'est la première étape individuelle dans le cadre de la construction du projet. Donc ce premier entretien se fait à l'antenne de France Parrainage, et ça nous permet de commencer à co-construire ensemble le projet de parrainage de proximité. Quel projet en particulier, quelle chose souhaite partager cette personne avec l'enfant, avec le jeune, comment elle se projette, encore une fois, dans la durée, dans le temps long, quelles sont les activités, les passions qu'elle souhaiterait, encore une fois, partager. Voilà, on échange pas mal, en général, ça dure une bonne heure et demie. Et ensuite, on va aller au domicile pour un second entretien des parrains et marraines. Ça, c'est systématique. C'est-à-dire, si la personne vit dans un petit studio et que c'est pas son projet d'héberger un enfant ou le jeune, nous, c'est pas grave. Il faut quand même qu'on aille voir parce que, généralement, à toute occasion, le jeune ou l'enfant peut passer quelque temps, même si c'est une petite heure. Et c'est bien aussi pour nous de voir où il serait accueilli, mais où vit la personne
oui, ça
qui
veut
demeurer.
Plus d'informations.
Ça
nous
donne aussi égal à des informations. On n'est pas là pour fliquer les gens, bien entendu, et voir si c'est le bazar chez eux ou non. C'est aussi pour connaître un peu mieux la personne.
Ouais.
Et généralement, c'est aussi un peu plus agréable, moins institutionnel que l'entretien entre dans les murs et l'association. Et surtout, ça nous permet aussi de rencontrer les autres personnes qui composent le foyer.
Ouais.
Conjoints, conjointes. Les enfants, les animaux également, c'est toujours quelque chose qui est important pour nous. Hein. Si c'est il y a un gros chien et quel enfant en perd des animaux, c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Et ça nous permet d'échanger aussi avec les personnes qui composent le foyer pour nous assurer qu'elles adhèrent bien au projet,
okay.
Même si elles ne sont pas forcément partie prenante. Par exemple, ça peut être un projet d'un des deux membres du couple. L'autre personne respecte tout à fait, sera là peut-être parfois quand il y aura l'enfant, pourra peut-être créer un lien rapide, mais c'est pas la personne qui porte le projet. C'est
okay.
pas le but. À l'issue de ces deux entretiens, nous, on se réunit entre nous en équipe et on discute du projet, de ce qui nous a semblé très clair ou non. Et ensuite, à l'issue, on va revenir vers les candidats parrain et marraine. Et soit on peut, à ce moment-là, dire « Nous, on valide, il n'y a pas de souci, tout est clair, c'est bien compris. » Et donc, les personnes deviennent en attente d'une mise en relation. Soit on peut se dire au contraire que le projet, pour nous, il n'est pas forcément pertinent dans le cadre du parrainage de proximité. C'est-à-dire, nous, on a quand même plus de 70 ans d'expérience là-dessus, on sait ce que ça engage, et on s'est dit que nous, on n'est pas forcément capable d'accompagner ce projet.
D'accord.
Et il est donc préférable, peut-être parfois, de réorienter la personne vers une autre structure, un autre type d'engagement bénévole, ça peut être un engagement plus ponctuel ou un autre type, concrètement du mentorat, des maraudes, du soutien scolaire. Voilà, il y a différents types d'engagement qui conviendront mieux, selon nous, au projet de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on considère qu'elle n'est pas en mesure d'accompagner un enfant ou un jeune. Ça veut dire que nous, on considère que le projet n'est pas adapté à ce que l'on peut proposer comme accompagnement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne laissez pas la personne sans rien. En fait, c'est-à-dire potentiellement, elle aurait pu tomber sur une autre association avec qui ça aurait beaucoup mieux matché par rapport à son projet. Et vous, c'est aussi votre rôle de s'assurer que les enfants que vous allez confier à ces bénévoles, ça se passe bien. Et si c'est pas les bonnes personnes par rapport à ce projet-là, dans ce cas-là, vous les dirigez vers une autre association. Et comme ça, cet engagement bénévole qu'elles avaient envie en fait de fournir pourra bénéficier à une autre association finalement.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et pour conclure, donc on a aussi une troisième possibilité, c'est que si nous on considère que le projet est viable, mais qu'on a certaines choses qu'on souhaiterait éclairer, on va proposer un troisième entretien qui est réalisé par le ou la psychologue en fonction prestataire qui travaille avec l'antenne.
Okay.
Il n'y a pas de psychologue salarié chez France Parrainage, mais chaque antenne travaille avec un psychologue prestataire qui peut justement venir en appui. Encore une fois, c'est pas parce qu'on considère que les gens ont besoin d'une thérapie ou autre, c'est parce que pour nous, si on se lance et qu'on valide le projet, on a besoin vraiment de se dire « Ok, les questionnements qu'on pouvait avoir, tout est vraiment au clair. Avant tout, pour l'intérêt, encore une fois, de l'enfant ou du jeune qui sera amené à être parrainé, le but, c'est pas de rajouter de la difficulté ou de créer une relation qui pourrait finalement lui faire du mal, mais également pour les parrains et marraines. Nous, encore une fois, on a l'expertise, on sait que parfois le parrainage, c'est un engagement émotionnel, donc si on voit qu'il y a une fragilité ou autre, on préfère ne pas prendre le risque et réorienter la personne vers un autre projet. Vous me posiez également la question de l'accompagnement. Il faut savoir, et ça c'est notre credo et notre vision chez France Parrainage, que toutes les antennes de parrainage sont composées de personnels salariés qui sont des professionnels issus du travail social. Donc chaque antenne de parrainage est composée à minima de deux travailleurs sociaux, surtout d'ailleurs des travailleuses sociales, et surtout sur un personnel composé de femmes, et qui sont en majorité de formation éducatrice spécialisée ou également assistante de service social.
D'accord.
Pourquoi cela ? Parce que concrètement, bien entendu, les parrains et marraines sont des bénévoles, je pourrais revenir juste après un peu sur leur profil, qui n'ont pas, nous on ne leur demande pas une expertise particulière de la prévention, de la protection de l'enfance, on ne leur demande pas forcément d'avoir déjà eu un enfant ou des expériences de garde d'enfant, on leur demande de venir spontanément et d'avoir la volonté de partager du temps avec un enfant. En revanche, pour nous, il est indispensable que tout le projet soit construit, co-construit et évalué, et surtout que l'accompagnement se fasse par des professionnels du travail social qui ont généralement une expérience en protection de l'enfance, dans le secteur du handicap ou dans l'accompagnement de familles vulnérables, fragilisées. Pourquoi cela ? Parce que nous, voilà, on sait qu'il y a des parcours qui peuvent être parfois un peu complexes, notamment en protection de l'enfance, des enfants qui peuvent avoir vécu des ruptures, c'est-à-dire s'ils ont été placés, c'est qu'il y a un moment eu une rupture dans leur parcours familial, ou même si ce ne sont pas forcément des histoires complexes, on sait que le lien de parrainage, parfois, ça peut être difficile, il peut y avoir des questions dans la communication entre tout le monde, on se comprend parfois pas toujours bien, et donc à ce moment-là, c'est important, vraiment, que France Parrainage puisse proposer un accompagnement de qualité avec l'expertise de personnes dont c'est le métier, donc la disponibilité et l'expertise. Sur cet accompagnement, comment ça se passe ? Concrètement, une fois que la personne est validée, donc le projet de parrainage est validé, on va proposer une mise en relation avec un projet d'enfant. Concrètement, nous, de l'autre côté, donc d'un côté, on évalue les projets pour les parrains et marraines bénévoles, de l'autre côté, on va rencontrer et construire des projets pour les enfants.
Ouais.
Ça va se passer avec l'enfant, avec son parent, ses parents, en fonction, et également avec les travailleurs sociaux qui peuvent accueillir, accompagner l'enfant. Donc, en fonction des cas, référent social, de l'aide sociale à l'enfance, un éducateur de la structure, la famille d'accueil, etc. Il faut savoir que France Parrainage, on n'est pas un établissement. Ouais. On n'a pas un vivier d'enfants prêts pour le parrainage. Donc, on travaille en lien avec nos partenaires locaux, en protection, en prévention de l'enfance, avec les parents également. Donc, nous, on va évaluer en parallèle le projet de l'enfant ou du jeune. C'est pareil, on va demander un dossier à remplir avec des autorisations à signer et on va rencontrer les détenteurs de l'autorité parentale et les travailleurs sociaux qui peuvent accompagner l'enfant et la famille, puis l'enfant et le jeune, une fois, deux fois en fonction, pour voir ensemble si le projet est bien compris par l'enfant, s'il est vraiment pertinent, viable dans le cadre de son épanouissement. Si c'est OK pour tout le monde et de notre côté, c'est pareil, l'enfant est validé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va faire en fait une espèce de matching.
Okay.
Concrètement, le matching il va reposer sur plusieurs critères. Déjà, un premier va être le critère géographique, puisqu'on va toujours chercher, comme je le disais, entre 30 et 45 minutes à distance, tout simplement parce que ce sont les parrains et marraines qui, dans la grande majorité des cas, vont aller chercher l'enfant à son domicile ou en tout cas à son lieu de vie. Donc mine de rien, quand c'est un week-end sur deux, un week-end sur trois et qu'on doit faire plus d'une heure de route, c'est long, aller-retour. Et après, il va y avoir aussi des critères plutôt de projet. Et c'est important pour nous de dire qu'on pense toujours à un projet de parrain pour l'enfant et non un enfant pour des parrains. C'est-à-dire qu'on va toujours repartir des besoins de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant qui a dit que lui souhaitait avoir des parrains avec un grand jardin pour pouvoir s'éclater ? Est-ce que c'est un enfant qui préfère un projet familial pour être avec d'autres enfants dans le cadre du parrainage ? Ou au contraire, un seul parrain, une marraine, juste pour lui, pour passer du temps un peu cocooning, on va partir toujours de ce projet-là. Au même titre que pour les parrains et marraines, on va aussi entendre leurs capacités, les limites qu'ils peuvent avoir. Ça peut être la question du handicap. Parfois aussi, un parrain ou une marraine qui a un projet plutôt pour un ado, nous, c'est tout à fait envisageable. Si c'est pour un plus petit, notamment parce qu'ils ont un enfant et qu'ils souhaitent faire un projet familial, ça s'entend aussi de notre côté. Donc, on va vraiment repartir un peu de tout ça en expliquant, bien entendu, que c'est pas un catalogue pour les parrains et marraines, mais en prenant en compte tous ces éléments. Une fois que nous, on a fait notre matching, on va proposer le projet aux parrains, aux marraines. Si c'est OK de leur côté, on le propose aux parents, aux référents sociaux, à l'enfant. Et si ça marche pour tout le monde, on organise une mise en relation à l'antenne de France Parrainage. Cette mise en relation, il y a l'équipe salariée de France Parrainage qui est là. Et l'idée, c'est de briser la glace, de se connaître un peu autour d'un goûter. On prend un thé ou autre. On fait un petit jeu peut-être. Et à ce moment-là, le parrainage peut démarrer avec la signature d'une convention qui engage tout le monde. Alors, on n'est pas sur un document strictement juridique et coercitif, on est vraiment plutôt sur quelque chose aussi de symbolique qui rappelle les engagements de tout le monde. Les parents, les parrains, les partenaires, travailleurs sociaux, France Parrainage également, à s'engager sur ce projet dans la durée et à respecter des bilans, l'accompagnement, etc.
Est-ce qu'ils se rencontrent qu'une seule fois ou ils peuvent se voir plusieurs fois avant de s'engager ?
L'enfant et les parrains,
oui.
Généralement, ils se rencontrent une seule fois, tout simplement parce que le fait de mettre parfois aussi de se dire bon, on se donne du temps, ça peut être un peu insécurisant pour l'enfant. De se dire voilà, on se donne du temps, bah, des enfants qui ont vécu des ruptures, ils vont se dire comment j'ai fait, je suis pas choisi, et ça. Bien entendu, si on voit que la rencontre ne se passe pas bien, ça arrive très 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 rarement.
D'accord.
De mémoire, c'est vraiment, généralement, ça se passe bien la première rencontre, on va forcer personne, on va l'imposer à personne. Mais aussi, en fait, au titre du fait que avant, on propose, on explique un peu le projet, on laisse les personnes réfléchir, bah, à partir du moment où elles nous disent OK pour la rencontre, on ne leur a pas imposé. Elles peuvent refuser le projet quand on discute en amont. Donc, l'idée, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, on signe la convention et qu'on propose un premier calendrier avec des dates, justement, de premier accueil.
Okay.
Mais bien entendu, si on voit que ça ne se passe pas bien, on peut refaire une seconde rencontre. Et ça sera surtout à la demande de l'enfant ou du jeune. Notamment, c'est déjà arrivé pour des jeunes un peu stressés qui avaient besoin qu'on le fasse en deux fois. Ça peut être le cas. On va
forcer parce que je me dis, ça peut être une rencontre un peu particulière, quoi, de se dire, bon, bah, finalement, il y a tout le monde qui est là, enfin, ça fait beaucoup de monde et on peut se sentir un peu plus nous-mêmes tout seul avec son parent ou sa marraine. Et du coup, voilà, ça peut être un moment un peu stressant, quoi.
Tout à fait. Donc, ça, on va adapter en besoin. Et après, l'idée, c'est que justement, après cette première rencontre, on brise la glace, mais avec un petit côté administratif où on signe la convention, bah le parrainage puisse démarrer et voler de ses propres ailes avec des rencontres qui vont là se dérouler, bien entendu, en dehors de l'antenne et bah soit au domicile du parrain de la marraine sur des activités extérieures. Il faut savoir que, parce que je parlais de la fréquence, de la durée, on est quand même sur 75-80% des parrainages qui vont se dérouler en tout ou en partie, mais en grande majorité, au domicile des parrains ou marraines.
D'accord.
Donc voilà, on est quand même souvent sur des temps qui se déroulent à un moment chez le parrain ou la marraine, sachant que, bien entendu, je le disais, c'est pas non plus un critère, un prérequis, on n'a pas besoin d'avoir une grande maison. Si on a un petit studio, on peut aussi avoir un super projet de parrainage, mais on va plutôt partir sur des temps extérieurs, donc plutôt peut-être avec un ado, des visites au musée, on va au cinéma, etc.
D'accord. Et la deuxième, donc si c'est signé, la première fois qu'il se revoit finalement pour le démarrage en fait de ce parrainage, il y a personne qui est avec eux, donc ils partent tous les deux.
Tout à fait. D'accord. Alors en fonction, bien entendu, si notamment c'est un enfant qui est un peu petit ou c'est un peu compliqué la séparation avec les parents, au début du temps, ils peuvent se retrouver avec le parent.
Ouais.
Avec une petite transition en douceur pendant une trentaine de minutes. Mais l'idée, ou si c'est un enfant qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, en famille d'accueil, en foyer, bah que le parrain, la marraine aillent le chercher sur son lieu de vie et qu'ensuite ils partagent un temps. Généralement, ça va être un déjeuner ou on va faire une sortie, une balade, un pique-nique, ça va dépendre. Quelque chose qui permet un peu de briser la glace encore une fois dans cette première rencontre. Mais effectivement, là, il n'y aura plus France Parrainage. L'idée, c'est que le lien prenne de manière individuelle.
Okay.
Mais après, dans notre accompagnement, nous, l'idée, c'est aussi qu'on soit à disposition de l'ensemble des personnes pour répondre à leurs questionnements, aux difficultés qui peuvent naître dans le cadre de la relation, des incompris parfois. Et donc, après les premiers temps d'accueil, nous, on va systématiquement passer un coup de téléphone aux parrains, marraines, parents, travailleurs sociaux, enfin voilà, en fonction aux jeunes, s'il y a un numéro, pour savoir comment ça s'est passé. Donc voilà, pendant deux, trois fois après les premiers temps d'accueil, on va s'assurer que tout s'est bien passé, répondre aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir. Et après, on va, dans tous les cas, maintenir l'accompagnement aussi longtemps que ce sera souhaité par l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va proposer un premier bilan avec tout le monde pour recueillir un peu les impressions de l'enfant avant tout, des parents, des parrains, des travailleurs sociaux avec qui on travaille. Un deuxième à 6 mois, puis après, un bilan annuel. Ça, sachant que c'est notre procédure, donc avec vraiment dans le temps, ces bilans à minima. Mais à tout moment, nous, on peut solliciter les personnes si on voit qu'il y a besoin de recadrer un peu, de rediscuter ensemble, ou sur demande des parrains, des parents, de l'enfant. On peut organiser des bilans individualisés ou avec tout le monde. Et bien entendu, on continue aussi d'accompagner au téléphone, pas que en physique, ça peut être en visioconférence parfois, la relation. L'idée étant vraiment en fait, voilà, que nous, on fasse ce tiers, notamment parfois entre les parrains et les acteurs de la protection de l'enfance, entre les parrains également et les parents, on est là vraiment pour accompagner la relation.
Okay.
On ne laisse pas la relation, une fois que nous on fait le matching, on ne les laisse pas seuls et dans la nature. Exactement.
Alors, est-ce que vous avez une jolie histoire à nous raconter, en tout cas de beaux parrainages qui seraient chouettes de partager aujourd'hui?
On en a beaucoup, on en a plusieurs, on a coutume de dire, et vraiment c'est une belle chose qu'on a accompagné plus de 780 parrainages en 2023. Ah, c'est plus de 780 parrainages différents, avec à chaque fois des petites histoires très chouettes à raconter. Bah, j'en ai une notamment à laquelle je pense, puisque en 2023, nous, on a arrêté l'accompagnement d'un parrainage, le parrainage de Zoé, qui est parrainée en Gironde, tout simplement parce qu'elle avait fêté ses 21 ans et que voilà, la relation allait bien. Mais il faut savoir que le parrainage, il avait débuté en 2007.
D'accord.
Donc, c'est un parrainage qui avait... qui a 16 ans et qui continue au-delà, hein, entre Zoé et son parrain. Donc Zoé, elle est partie en vacances, elle est intégrée totalement à la sphère familiale, et amicale de son parrain, de la famille de son parrain. Il l'a accompagnée tranquillement aussi vers son autonomie. Aujourd'hui, Zoé, elle est jeune fille au pair au Royaume-Uni. Voilà, on est sur une super histoire. Ils continuent de se voir régulièrement. Ils échangent au téléphone. Donc on est vraiment sur l'idée que d'un lien qui dure et qui perdure un peu toute la vie. Et donc Zoé, cette jeune qui a été parrainée alors qu'elle était enfant, elle a traversé l'adolescence avec son parrain, les différentes expériences de la vie qu'il a pu avoir, elle a pu s'appuyer vraiment sur le soutien socio-affectif de son parrain, elle a pu aussi s'appuyer sur lui parfois dans les devoirs, dans des questions à l'école. Et aujourd'hui, il y a un lien de cœur, donc c'est vraiment son parrain de cœur, au-delà de la... on n'est pas sur du parrainage religieux, et Zoé est intégrée à la sphère familiale comme un filleul, un neveu, une nièce, un enfant d'amis de la famille, et en fait on est sur un lien qui perdurera normalement toute la vie, bien au-delà de notre accompagnement. J'ai aussi une autre histoire, et il y a pas mal de témoignages que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet, écrit ou en vidéo. Et c'est notamment l'histoire de Désiré, qui est un jeune garçon qui vit avec sa maman en Seine-Saint-Denis et qui a un couple de parrains et avec qui il fait énormément d'activités, avec qui il va au musée, avec qui il allait voir un match de foot également du PSG. Vraiment plein de belles histoires. Et en fait, on est vraiment là sur un lien assez fort également entre parrain et la maman qui était en demande du parrainage. Avec qui on travaille régulièrement justement pour que le parrainage réponde avant tout aux besoins de son enfant, mais voilà, que ça soit aussi du répit un peu pour cette maman. Et donc il y a un véritable lien de confiance qui s'est créé entre les parrains, la maman, donc les parrains voilà, qui proposent plein d'activités à Désiré, qui va chez eux en week-end, et on est vraiment sur quelque chose de chouette qui grandit en fait au fur et à mesure. Là, Désiré, il a 12 ans, son parrainage a commencé quand il en avait 9. Donc on arrive à un nouveau passage à l'adolescence avec peut-être des nouveaux besoins, des nouvelles demandes, et ses parrains qui s'adaptent toujours en fonction de ce que lui, il peut demander. Et enfin, j'en ai une dernière en tête, alors qui est très particulière, parce que le parrainage, nous on explique toujours, il ne faut pas confondre le parrainage avec d'autres projets. Mmh. Être parrain ou marraine bénévole, c'est pas être famille d'accueil, c'est un métier de famille d'accueil.
Ouais.
C'est pas être ce qu'on appelle un tiers digne de confiance. On n'accueille pas l'enfant ou le jeune au quotidien, c'est séquentiel. C'est pas non plus une première porte vers l'adoption. Ça, c'est important pour nous de le dire. Mais parfois, on a de très très belles histoires avec des parrainages qui peuvent découler sur des adoptions simples. C'est extrêmement rare. C'est vraiment pas... C'est l'exception, vraiment. Mais moi, je pense à une histoire, justement, de Doucement, qui est un jeune mineur non accompagné à l'époque où le parrainage a commencé, et de la relation extrêmement forte qui s'est créée avec son parrain. Et aujourd'hui, bah, ce parrain est devenu son papa puisqu'il y a eu une procédure d'adoption simple. Et donc on est sur une histoire que nous on a accompagnée, qu'on a vu grandir. Aujourd'hui, c'est plus un parrainage qu'on accompagne déjà depuis quelques temps, mais on a maintenu le lien avec ce parrain, avec ce jeune. Et aujourd'hui, voilà, leur histoire a fait en sorte, dans son développement et avant tout à la demande de ce jeune et en accord avec le parrain, qu'elle prenne un autre tournant. Donc ça, c'est une de nos belles histoires qui est bien entendu exceptionnelle, puisque le parrainage, c'est pas pour ça à la base. Mais ça montre justement la force des liens qui peuvent se créer au fur et à mesure du parrainage de proximité, sachant que voilà, c'est pas non plus, c'est encore une fois exceptionnel, puisque la grande majorité des enfants qui sont accompagnés via le parrainage, ben, ils ont toujours leurs parents, ils ne sont pas des enfants qui peuvent être adoptés, ce ne sont pas des orphelins ou des pupilles de l'État, mais dans quelques cas comme celui-ci, ça a été possible.
Bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, vous, les lâchez pas dans la nature, vous les accompagnez. Qu'importe la situation, le contexte. Et au final, c'est ça aussi, c'est que vous pouvez vous adapter en fonction aussi de ce qui se passe et de trouver les bonnes personnes. En tout cas, vous avez l'air d'être très très bon sur les matchs entre enfants et parents.
C'est ce qu'on essaye de faire. Il n'y a pas de matching parfait. Parfois, il y a des parrains et marraines qui nous disent, moi, écoutez, j'ai plutôt un projet pour un enfant de moins de 10 ans parce que voilà, pour X ou Y raison, moi, je suis plus à l'aise, j'ai des activités plutôt adaptées pour un enfant de cet âge. Nous, on voit qu'il y a un enfant de 13-14 ans, je pense à Ryan, un très beau témoignage où il part au ski avec ses parrains, où c'était un couple qui voulait parrainer plutôt un enfant. On leur a proposé un jeune de 14 ans, et en fait, on leur a dit « faites-nous confiance ». C'est un jeune qui a d'autres besoins, qui n'a pas des besoins d'ado ou des représentations qu'on peut se faire. Il a vraiment un besoin d'être accompagné, un besoin de lien. Et c'est un parrainage qui est superbe aujourd'hui, puisque voilà, Ryan y va quasiment tous les week-ends chez ses parrains. Il part en vacances, donc ils sont allés au ski, ils font plein de trucs ensemble. Et donc ça, c'est une super histoire. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé, pardon, c'est sur qui sont les parrains, parce que j'ai expliqué un peu comment on évaluait, quels étaient un peu nous, comment ça se passait. Des critères, en fait, à la base, pour devenir parrain ou marraine, il n'y en a que deux, c'est être majeur et avoir la volonté de partager du temps sur la durée avec un enfant. Il n'y a pas besoin de critères socio-matériels, je le disais, pas besoin d'avoir une grande maison, pas besoin d'avoir des enfants ou une expérience de garde d'enfants. Après, voilà, tout le projet, nous, on va évaluer la pertinence, bien entendu. Mais pareil, ce sont des parrains et marraines qui viennent de différents horizons. On a plusieurs études pour savoir un peu qui sont nos parrains et marraines bénévoles. Et ce qui est important, c'est que déjà, ce sont en majorité des marraines. Mais après, il y a une grande hétérogénéité. On a des personnes qui vont de 18 à 88 ans, notre doyen sur notre antenne de Picardie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des parrains et marraines ne sont pas retraités. Ce sont des personnes dans la vie active. Donc à peu près 2/3 de nos parrains et marraines ont entre 40 et 60 ans. C'est pour ça que la plupart du parrainage, des temps de parrainage, pardon, se passent le week-end ou les vacances scolaires. Et ce sont des projets divers et variés, avec des personnes seules, avec ou sans enfants, des couples homosexuels, hétérosexuels, de toute religion. Je le disais tout à l'heure, c'est du parrainage de cœur, on n'est pas sur un parrainage religieux. France Parrainage, on a une asso laïque, à partisane, à politique. Et donc, une personne de toute confession peut venir parrainer un enfant d'une autre confession ou non. On est vraiment sur des valeurs de bienveillance, d'ouverture, de tolérance. Et donc, si vous êtes d'une confession, mais que ça ne vous gêne pas de partager justement vos croyances ou vos valeurs ou votre culture avec un enfant, un jeune qui vient d'un autre milieu, totalement, socioculturel, religieux même, nous, il n'y a aucun souci, tant qu'on est sur du partage et de la bienveillance.
D'accord. Ben, merci beaucoup.
Et donc, je parlais des bilans de parrainage qui vont être réguliers et se faire à minima une fois par an. Le parrainage, ça reste une relation humaine. Comme dans toute relation humaine, parfois, ça peut venir à sa fin. Nous, ce qui est important, dès le début, on l'explique, tant aux parrains, aux parents, à l'enfant, que la relation peut venir à son terme, à un moment. En fait, tout le monde dans la vie est amené à vivre des séparations, que ce soit une rupture amicale, amoureuse, professionnelle, familiale parfois. Ce qui est important, c'est que les choses soient dites, que les mots soient traités et qu'on puisse tirer le positif de cette expérience, vraiment. Et donc en fait, au même titre qu'il y a des bilans d'accompagnement du parrainage, à partir d'un moment où si voilà, l'enfant dit « moi, je souhaite plus forcément continuer le parrainage » ou « les parrains ont des difficultés, les parents », nous, on va essayer de trouver ensemble pas mal de pistes pour travailler ensemble et voir ce qui peut-être parfois peut être un souci dans la communication, une incompréhension, ou peut-être parfois c'est changer la fréquence, notamment pour un enfant qui se dit « moi, j'aime beaucoup aller chez mes parrains, mais peut-être un peu moins. Toutes les 2 semaines, c'est un peu trop. J'ai envie d'aller jouer avec mes amis ou de partager d'autres choses avec mes parents. » Donc, on peut réduire un peu la fréquence. Parfois, les pistes qu'on va avoir ensemble ne suffisent pas et la relation va arriver à son terme. C'est normal, encore une fois, c'est sain. Nous, ce qu'on va organiser à ce moment-là, donc c'est un bilan où on va pouvoir se dire au revoir. Et vraiment tirer le positif de ce qui a été fait, sachant que parfois on arrête le parrainage, ça n'empêche pas que la relation puisse perdurer ou reprendre quelques mois, quelques années après. On se dit, en fait, on regarde en arrière, c'était chouette. Peut-être qu'au moment où on a arrêté, on a fait une pause parce qu'on n'avait plus besoin de ça à ce moment-là, mais l'enfant peut reprendre la tâche après avec ses parrains et marraines. Et pour nous, c'est vraiment important, si ça arrive à la fin, bah, que dans tous les cas, on puisse mettre des mots positifs sur cette belle expérience qui s'est passée.
Ouais, jusqu'au bout, vous allez encadrer en tout cas tout l'aventure et ça, c'est chouette. Personne ne part comme ça, chacun de son côté, sans avoir eu d'explication.
Et encore une fois, ici, l'importance d'avoir des équipes qui sont vraiment dédiées à ça uniquement, qui ont cette expertise parce que c'est leur métier, concrètement. Dans le cadre de l'accompagnement, également, c'est important parce que le projet de parrainage, ça reste un projet individualisé. À la base, on est sur un lien privilégié. On reste une association avec une vie associative et donc pour nous, c'est aussi important de créer ce sentiment d'appartenance et de proposer des activités collectives. Donc sur chacune de nos antennes, on va proposer tous les ans des temps collectifs, donc des temps généralement conviviaux, ludiques, avec des sorties, avec des intervenants extérieurs, du théâtre, des sorties à la mer. On a plein de partenaires aussi qui nous proposent parfois des places pour aller voir un match ou des choses comme ça. Et on a également, dans le cadre de notre accompagnement, parce que c'est très important pour nous, là on est moins sur du festif, hein, mais beaucoup sur de l'échange, on propose des groupes d'échange pour les parrains et marraines de notre association, qui sont animés par les psychologues prestataires. On propose des groupes d'échange entre parents également, ça peut être de l'entraide, on se donne des conseils, on partage les difficultés face à la parentalité, c'est important. Et on a également des ateliers parfois partagés entre parents et enfants. Sur l'ensemble des publics qu'on a accompagnés en 2023, près de 30% sont des familles monoparentales, avec ou sans mesure d'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est quand même un public important. Et puis après, on a des parents qu'on accompagne avec différentes expériences de la parentalité. On a une majorité d'enfants qu'on accompagne, à peu près la moitié, qui ont entre 2 et 12 ans. Mais on accompagne aussi beaucoup, donc le reste sont des enfants qui sont adolescents, donc entre 12 et 21 ans, et donc avec des besoins, des questionnements qui vont être différents. Et donc ces groupes d'échange, au-delà du parrainage, au-delà de l'accompagnement individualisé des équipes, bah, ça permet aussi de la pérédance, des échanges avec d'autres parrains, d'autres parents.
Alors on arrive à la question pour les auditeurs, donc c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. Quel est le message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Moi j'ai envie de remercier quand même si les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément engagées auprès de nous. J'ai envie de remercier les parrains, les marraines qu'on a accompagnés, qu'on accompagne actuellement ou qu'on accompagnera peut-être demain après ce podcast pour leur engagement citoyen. C'est nos vigies citoyennes, hein, le parrainage, c'est donner de son temps, partager de son temps avec un enfant. Merci également aux parents, pareil, hein, qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. On fait confiance à l'association, on fait confiance aux parrains et marraines de leur enfant, bien entendu aux enfants et aux jeunes, qui se sont lancés dans ce projet. Sans doute, ça leur a apporté quelque chose, même si au début, c'était compliqué un peu de voir ce que c'était le parrainage. Et merci aussi à nos partenaires, aux travailleurs sociaux avec lesquels on collabore au quotidien, parce que c'est aussi grâce à eux, hein, qu'on peut mettre en place des projets de parrainage pour les enfants, aux partenaires publics et privés qui nous financent, bien entendu, et avec qui on réfléchit ensemble à ces actions. Et merci plus globalement, vraiment, voilà, à toutes les personnes qui s'engage ou qui souhaite s'engager. Demain, alors le parrainage, c'est vraiment une chouette histoire. Parrainage de proximité, mais également le parrainage international, hein, qu'on a mentionné au début. Donc voilà, un grand merci. Et si jamais, en tout cas, à l'issue de ce podcast, bah, ça vous a donné envie de vous engager, vraiment, n'hésitez pas.
C'est un super message, merci beaucoup. Et pour finir, justement, comment on peut soutenir l'association de quelque manière que ce soit ?
Alors, vous avez plein de manières différentes de nous soutenir ou de soutenir le réseau France Parrainage, parce que j'ai parlé de nos 12 antennes, mais on est également constitué d'un réseau de 7 associations partenaires. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.france-parrainage.org. Donc le premier moyen de nous soutenir, et on en a parlé durant ce podcast, bah c'est en vous engageant, si demain vous souhaitez devenir parrain ou marraine de proximité. Comme je le disais, on a 12 antennes départementales avec une carte sur notre site. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en plein développement avec des antennes qui pourront s'ouvrir d'ici la fin de l'année ou dans les années à venir sur de nouveaux territoires. La deuxième manière, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas forcément le temps de dédier justement un temps régulier à un enfant ou un jeune, c'est de devenir parrain ou marraine à l'international. Là, vous apporterez un don financier qui sera vraiment une contribution essentielle à l'épanouissement d'un enfant qui vit dans un des territoires, dans un des pays, pardon, dans lesquels nous intervenons. Vous pouvez également faire un don ponctuel ou adhérer à notre association, poursuivre nos activités, appuyer également, nous, la vie associative, le fonctionnement de notre association. Si, enfin, bah, vous n'avez pas forcément le temps, soit de vous encaisser dans un projet de parrainage de proximité, ou le souhait ou les moyens financiers d'appuyer nos actions, vous pouvez tout simplement également bah, relayer nos actions. On a plusieurs réseaux sociaux, on a Facebook, Instagram, on a actuellement une campagne aussi hein, institutionnelle où on partage nos actions. Nous, ça nous fait de la visibilité, ça aide à faire connaître un dispositif qui est encore aujourd'hui méconnu, le parrainage de proximité, ou en tout cas attirer des personnes qui seraient peut-être intéressées. Donc voilà, il y a quand même pas mal de moyens d'aider avec vos possibilités, vos capacités. Nous, dans tous les cas, tout coup de pouce est toujours apprécié et on vous en remercie encore une fois.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu en savoir plus sur l'association. J'espère du coup que ça aura permis aux futurs parrains et marraines de découvrir France Parrainage. Et puis, je vous dis à très vite.
Je vous remercie sincèrement de nous avoir accueillis. C'était vraiment une super expérience.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir les autres associations à travers d'autres podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association France Parrainage directement sur le site podcaston.org. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt.